France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Mathieu Laurent. Rebonjour Mathieu.
Rebonjour Marie Laborie, bonjour à toutes et tous. Nous serons dans un instant à Hong Kong, où les opérations de secours ont cessé après les effroyables incendies qui ont détruit 3 immeubles d'un complexe résidentiel, 128 morts et plus d'une centaine de disparus. Ce sera un reportage de Sébastien Berriot. Des crimes de guerre imputés à l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, où 2 Palestiniens sont sommairement exécutés par 2 soldats israéliens, en témoigne une vidéo tournée sur place par un de nos confrères de l'AFP Correspondance, de Thibault Lefebvre. Également au sommaire, les mesures anti-immigration annoncées par Donald Trump après qu'un tireur de nationalité afghane a ouvert le feu sur 2 membres de la garde républicaine en poste aux abords de la Maison Blanche. Précision d'Isabelle Labéry. Dans l'actualité française, la Cour de cassation se prononce cet après-midi pour la première fois sur la notion de contrôle de fait d'une entreprise. Les magistrats ont été saisis par les sociétés Bolloré et Vivendi, un dossier technique décrypté par Marie Viennot. Et puis invité du journal, Charlie Broca, responsable de recherche chargé de la transition environnementale de l'alimentation à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Avec lui, nous évoquerons la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat que publie aujourd'hui le gouvernement après 2 ans de travaux et d'âpres tractations. À Hong Kong, les familles angoissées des nombreuses personnes toujours portées disparues écument les hôpitaux. Il y a quelques heures, le chef de la sécurité, Chris Tang, a fourni des chiffres qui disent l'étendue du drame. Les incendies qui ont ravagé plusieurs gratte-ciels ont causé la mort de 128 personnes, dont 89 toujours non identifiés, plus d'une centaine de disparus, 79 blessés. Les pompiers ont confirmé les dires des rescapés qui, dès hier, ont souligné que les alarmes n'avaient pas fonctionné. Les investigations ne font que commencer. Au-delà des cordons de sécurité, la solidarité, le réconfort, comme l'a constaté notre envoyé spécial à Hong Kong, Sébastien Berriot.
À quelques 200 mètres des gratte-ciel ravagés par l'incendie, le petit centre commercial du quartier a été transformé en un vaste camp humanitaire. Sur le parvis, plusieurs centaines de bénévoles venus de tout le territoire se sont installés tôt ce matin pour apporter une aide aux sinistrés, distribution de vêtements, denrées alimentaires et tout le matériel nécessaire au quotidien. Vi fait partie des bénévoles.
Les Hongkongais aident les Hongkongais, c'est aussi simple que cela. En regardant les informations à la télévision, j'ai ressenti une immense tristesse, alors je suis venue ici pour donner un coup de main. J'ai apporté des sous-vêtements pour femmes et des articles du quotidien.
Dans la plupart des cas, les sinistrés ont tout perdu, comme Wei Xiang, 78 ans, qui est aux côtés de sa femme.
Nous habitons au milieu du bloc C. Mon ami m'a appelé pour me dire que notre immeuble était en feu et m'a demandé de sortir immédiatement. Heureusement, on est sains et saufs avec ma femme, mais nous n'avons rien pu prendre avec nous. Tout ce que nous possédions a disparu. Nous sommes venus ici pour trouver des vêtements chauds. Là, on m'a donné cette doudoune et nous sommes hébergés chez des amis.
Au premier étage du centre commercial, un dortoir a été improvisé, des matelas installés et parfois des cartons pour permettre aux résidents de dormir à l'intérieur, comme Wei Yang, 48 ans.
Mon appartement a été complètement détruit, je n'ai plus rien. Je suis actuellement hébergé dans ce lieu temporaire, on est environ 200. On reçoit des repas gratuits et des médicaments. Et nous dormons par terre.
Juste derrière, à l'abri des regards, la police accueille les familles de disparus dans une tente pour la reconnaissance des corps. 80 d'entre eux, totalement calcinés, n'ont pas pu être identifiés.
Reportage Sébastien Berriot à Hong Kong. Le ministère syrien des Affaires étrangères a dénoncé un crime de guerre après l'incursion israélienne menée dans la nuit dans le sud de la Syrie qui a fait 13 morts selon un nouveau bilan des autorités à Damas. Crime de guerre, même accusation formulée par l'autorité palestinienne à l'encontre de soldats israéliens qui ont, les images d'un de nos confrères de l'AFP sur place en attestent, abattu 2 Palestiniens en train de se rendre, apparente exécution sommaire. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour.
Thibault, vous êtes en direct de Jérusalem. Ces faits témoignent, comme d'autres, par le passé, du climat d'impunité qui règne au sein de l'armée israélienne.
Oui, cette bavure présumée est loin ici de faire la une des journaux. Il n'y a en Israël que la gauche humaniste et des groupes d'activistes clairement en perte de vitesse dans une société très à droite depuis le massacre du 7 octobre qui s'offusque encore des violences de l'armée et de la police. C'est le cas notamment de l'association Breaking the Silence. Elle est composée d'anciens soldats comme Nadav Weiman.
Ça ressemble à une exécution. La déclaration du porte-parole de l'armée israélienne, c'est de la bêtise et du mensonge. Si vous regardez le soldat à gauche de la vidéo, il ne bouge pas quand l'autre militaire situé à droite avec son casque sur la tête tire et tue les deux Palestiniens.
L'armée et la police aux frontières ont déclaré dans un communiqué conjoint que les deux victimes palestiniennes étaient affiliées à un réseau terroriste. Le ministre de la Sécurité nationale, le suprémaciste Itamar Ben-Gvir, a salué ces meurtres présumés. Et pour Nadav Weiman, qui lui aussi a combattu en Cisjordanie occupée dans les forces spéciales, c'est évidemment au plus haut niveau de l'État qu'est cultivé ce sentiment d'impunité.
Ce n'est pas un sentiment d'impunité, ce sont des faits que l'on constate sur le terrain. Vous pouvez le constater quand un soldat israélien tue des civils, il ne se passe rien. L'armée va dire qu'elle enquête. Dans la plupart des cas, les enquêteurs ne vont pas récupérer de preuves médico-légales. Ils ne vont pas non plus interroger d'autres soldats qui étaient sur place. Il n'y a donc pas de preuves. En tant que soldat, vous savez donc que vous bénéficiez d'une impunité.
Sans surprise donc, une enquête du ministère de la Justice est en cours pour un événement que l'armée israélienne a qualifié d'incident.
Thibault Lefebvre à Jérusalem, via une longue diatribe qui prend pour cible les ressortissants de 19 pays dits sensibles, je cite encore, venus du tiers-monde. Donald Trump promet d'en finir avec l'immigration après avoir annoncé le décès d'une des deux membres de la garde nationale attaquée avant-hier à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche à Washington par un jeune homme afghan. Arrivé aux États-Unis en 2021, après avoir servi aux côtés de l'armée américaine en Afghanistan, l'autre soldat est toujours dans un état critique. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Isabelle, il y a la logorrhée dont est coutumier Donald Trump et des mesures concrètes, comme par exemple un vaste réexamen des demandes d'asile.
Oui, cette attaque contre les membres de la garde nationale permet au président américain de justifier un nouveau tour de vis contre tous les immigrés. Il lance en effet la réévaluation de l'intégralité des demandes d'asile approuvée par son prédécesseur démocrate, ainsi que des cartes vertes attribuées aux ressortissants de sa liste noire établie en juin dernier. 19 pays déjà soumis à des restrictions de visa, entre autres la Birmanie, l'Iran, le Tchad, le Soudan ou Haïti. Et bien sûr, l'Afghanistan. Depuis mercredi, les services de l'immigration n'examinent plus aucune demande de ressortissants afghans. Et ceux qui sont déjà présents sur le territoire américain vont eux aussi subir un réexamen minutieux de leur situation. En 2021, après le retrait des forces américaines, l'administration Biden avait mis en place des programmes de réinstallation pour ceux qui fuyaient le retour des talibans. Plus de 190 000 personnes en ont bénéficié, dont l'auteur présumé de la fusillade à Washington. Donald Trump qualifie aujourd'hui l'opération de pont aérien horrible et dénonce une invasion sans contrôle ni vérification. C'est pourtant sous sa présidence que le suspect avait finalement obtenu l'asile. Ces mesures concrètes, vous l'avez dit, sont noyées dans une nouvelle diatribe anti-migratoire du président américain qui menace aussi de mettre fin aux aides fédérales pour les non-citoyens et d'expulser tout ressortissant étranger considéré comme, je cite, un fardeau public, un risque pour la sécurité ou qui n'est pas compatible avec la civilisation occidentale.
Merci Isabelle Labéry. La justice ukrainienne passe à l'acte. Les autorités anticorruption ont mené des perquisitions liées à Andriy Yermak, chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky et principal négociateur du pays. Rappelons que les deux agences à l'œuvre ont lancé au début du mois une vaste enquête sur un système présumé de rétrocommission de 100 millions de dollars au sein de la Société nationale d'énergie atomique.
Un nouvel intercalaire à ce qui s'apparente à un feuilleton qui a pour source une enquête menée par l'Institut de sondage IFOP sur l'islam, les musulmans de France.
Oui, un nouvel intercalaire au scénario ce matin. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, condamne l'irruption sans autorisation et accompagnée de caméras de trois députés du Rassemblement national sur un campus d'une université en Seine-Saint-Denis. Et on a d'ailleurs informé la présidence de l'Assemblée nationale de l'incident. Bonjour Julien. Julie Pacou.
Bonjour à tous.
Julie, une intrusion qui a eu lieu, soyons précis, mercredi matin.
Oui, Julien Odoul, Philippe Ballard et Laurent Jacobelli sont donc entrés sur le campus de Villetaneuse accompagnés d'un membre du site d'extrême droite, Boulevard Voltaire, filmant leur déambulation à travers les couloirs avant qu'ils ne soient interpellés par des étudiants. Et ce sont eux qui ont alerté la présidence de l'université, dont le vice-président Olivier Houdard.
Nous avons décidé d'aller les voir pour essayer de dialoguer avec eux et surtout pour leur dire qu'ils avaient fait préalablement, il y a quelques semaines, une demande pour venir sur le campus que nous ne leur avons pas donnée, mais en leur précisant qu'on était tout à fait prêts à aller les rencontrer pour répondre à leurs questions à l'Assemblée nationale. Et malgré cette non-autorisation, ils se sont présentés et ont pu rentrer sur le campus. Leur réaction a été de nous reprocher un certain nombre de choses et ils regrettaient de ne pas pouvoir entrer et de voir faire des captations vidéo pour voir et conforter leurs idées qu'ils avaient sur notre établissement.
À savoir l'idée diffusée par l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelles, selon laquelle cette fac serait devenue le temple du communautarisme musulman. La présidence de la Sorbonne Paris-Nord y voit un coup de communication du RN visant à mettre en scène une image déformée et éloignée des réalités du campus. Et si le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, dénonce cette instrumentalisation de l'université à des fins politiciennes, Hélène Boulanger, vice-présidente de France Université, met en garde face à ce phénomène qui prend de l'ampleur.
Clairement, il me semble aujourd'hui que cet espace où la science se travaille, s'exprime, cet espace de liberté dérange. Je me permets de rappeler que la laïcité est appliquée à l'université, hein, mais avec des règles qui sont différentes de celles qu'on trouve dans les collèges et les lycées. Les étudiants et les étudiantes ont le droit de porter des signes religieux, et ça, c'est extrêmement facile à instrumentaliser pour servir un discours xénophobe. Très concrètement, en fait, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis a été amorcé de la même manière il y a quelques années, et je suis très inquiète de voir que la France est en train de suivre le même chemin.
La présidence de Sorbonne Paris-Nord attend désormais du gouvernement un soutien sans faille pour protéger les universités de toute intrusion, quelle que soit leur origine.
Merci Julie Paco. L'entreprise Duralex clôt sa levée de fonds ce vendredi. Après avoir eu la confirmation des promesses d'investissement, la verrerie de la chapelle Saint-Mémin dans le Loiret, reprise il y a un an par ses salariés, va en effet lancer une levée de fonds pour se redresser avec l'objectif atteint de se financer à hauteur de 5 millions d'euros. Une information que l'on doit à la rédaction d'ICI Orléans, ex-France Bleu.
La Cour de cassation se prononce cet après-midi pour la première fois sur la notion de contrôle de fait d'une entreprise.
La question étant de savoir si la société Bolloré contrôlait Vivendi quand elle a proposé, en Assemblée Générale, de scinder l'entreprise en plusieurs entités. Un dossier technique aux lourds enjeux financiers. L'entreprise Bolloré pourrait avoir en effet à débourser plusieurs milliards d'euros pour dédommager les actionnaires minoritaires. Les explications de Marie Viennot.
En décembre dernier, l'Assemblée Générale des actionnaires de Vivendi vote à 97% pour la scission du conglomérat en quatre entités distinctes. Avec plus d'un tiers des parts, la société Bolloré est l'actionnaire principal de Vivendi, mais elle n'a pas la majorité. De fait, elle ne contrôle pas Vivendi, considère l'autorité des marchés financiers dans une décision rendue avant la scission. Mais un fonds activiste, Siam, représentant 0,025% des actionnaires, ne se satisfait pas de cette réponse. Et coup de théâtre, 4 mois plus tard, la Cour d'appel de Paris annule la décision de l'autorité des marchés financiers, pourtant confirmée en première instance. Dépassant la seule dimension arithmétique du sujet, les juges d'appel considèrent qu'au contraire, Vincent Bolloré contrôlait Vivendi, car même si les parts de sa société étaient inférieures à la moitié, son influence et son autorité lui assuraient un contrôle de fait. Une appréciation inédite qui, si elle était validée par la Cour de cassation, pourrait faire jurisprudence et ouvrir de nombreux autres contentieux. Voilà pourquoi tout le monde des juristes et des affaires s'y intéresse. Quant à la société Bolloré, elle serait alors tenue de racheter les actions de tous les actionnaires minoritaires qui le demandent, ce qui, en fonction du cours de bourse à ce moment-là, représente un coût allant de 3 à 9 milliards d'euros. Une somme impressionnante, mais qui n'aurait pas à être déboursée à court terme, car d'autres voies de recours, parallèles à la procédure en cassation, sont envisageables pour l'homme d'affaires et ses conseils.
Merci de vos explications. Marie Viennot.
Le gouvernement publie aujourd'hui sa stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat.
Ce document, censé définir l'action du gouvernement d'ici 2030 pour une alimentation saine et moins émettrice de gaz à effet de serre, est issu de la Convention citoyenne sur le climat et de la loi Climat et résilience qui a suivi en 2021. Alors qu'il est, nous n'en connaissons que quelques grandes lignes de cette stratégie nationale. Bonjour Charlie Brocard.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle ou je dis que vous êtes responsable de recherche chargé de la transition environnementale de l'alimentation à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Charlie Brocard, si cette stratégie a mis tant de temps à être élaborée, c'est notamment, c'est un secret de polichinelle, en raison des tensions entre les ministères concernés, agriculture, santé et environnement. Pourquoi c'est un document si important ?
Alors, vous l'avez rappelé, effectivement, ça vient de la Convention citoyenne pour le climat. Et le travail a démarré dès 2021. L'objectif à l'origine du gouvernement, c'était de sortir un document en 2023. Et comme vous avez pu le voir, on est en 2025 et il devrait sortir uniquement aujourd'hui. Pourquoi c'est si important ? C'est parce que l'alimentation, elle est au cœur de différents types d'enjeux environnementaux, de santé, d'inégalités, et aujourd'hui aussi, du fait de la guerre en Ukraine, d'autonomie et de souveraineté. On l'a vu avec les questions des engrais notamment. Et donc, il y a tout un ensemble d'enjeux qui se posent autour de l'alimentation et les ministères ont leurs propres intérêts, leurs propres enjeux à défendre. Et la négociation, parce que c'était la première fois qu'il y avait une négociation comme ça entre triade avec les trois ministères, environnement, santé et agriculture, a donc été très difficile. Donc je pense que le temps qui a été nécessaire reflète cette diversité des enjeux et cette difficulté pour le gouvernement d'arriver à trancher. Et on a eu notamment des sujets très précis comme la consommation de viande, par exemple, ou les aliments ultra transformés, qui ont pu cristalliser un peu ces diversités de cette divergence même entre les ministères.
Justement, s'agissant de la consommation de la viande, le texte final parle de limitation, un terme souvent employé au ministère de l'Agriculture, et non plus de réduction, terme qui figurait dans le projet soumis à consultation. Et donc, ça ne donne pas d'objectifs chiffrés, ces fameux objectifs réclamés par des ONG. C'est là l'une des difficultés parmi tant d'autres, j'imagine.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que sur la question de l'objectif chiffré, il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire que dans aucune des versions qui a été communiquée depuis 2024, il n'y a eu d'objectif chiffré. Le gouvernement a toujours été très prudent sur cette question de la consommation de la viande, du fait notamment d'une crainte de réaction des filières, quand bien même il fait référence à la stratégie nationale bas carbone, qui est un autre document, dans lequel il y a aussi des hypothèses de baisse de consommation de viande. Et ce document-là, la stratégie nationale bas carbone, devrait sortir bientôt. Et donc, mine de rien, dans la stratégie nationale dont on parle, alimentation, ils font référence à ces objectifs-là de manière un peu cachée. Mais il y a quand même, finalement, une hypothèse de baisse de la consommation de viande. Donc, il y a quand même ces objectifs-là, même si c'est un peu dissimulé. Et c'est vrai que là, dans le texte final, on devrait arriver avec la mention d'une limitation. Il faut quand même noter qu'en septembre, sous le gouvernement précédent, même cette mention de la limitation avait été retirée. Donc, il y a eu de nombreux atermoiements, des allers-retours, et finalement, on se retrouve avec une limitation qui est peut-être un moindre mal, même si effectivement, le fait d'avoir un objectif chiffré aurait été beaucoup plus clair et aurait permis une planification un peu plus proche des enjeux pour la filière.
Alors, un moindre mal, dites-vous, Charlie Brocard, et stratégie des filières. Qu'est-ce que cela dit, tout ce que vous nous racontez là, du poids des lobbies économiques ? Ce sont des pressions, ça on ne l'ignore pas, récurrentes sur toutes les politiques agricoles. Sans exception.
Oui, bien sûr. Et agricole et alimentaire, parce qu'on a pu voir les débats autour du Nutri-Score.
Tout à fait récent, débat, absolument. Oui, oui.
Oui, voilà, et qui continue encore aujourd'hui autour de l'affichage environnemental. On a la même sensibilité des sujets, donc on sait que sur les sujets alimentaires, on est sur des questions qui sont très éruptives. D'où les enjeux qui se posent pour les ministères concernés. Mais je tiens quand même à souligner qu'il y a quelques enjeux importants qui ont quand même percolé dans cette stratégie, puisqu'on a notamment le fait que pour la première fois, la grande distribution est ciblée comme un des acteurs centraux de l'évolution des pratiques alimentaires vers du plus durable et du plus sain. Dans les précédentes stratégies, il n'y avait jamais cette considération de la grande distribution. Et donc là, encore une fois, on crante une première étape qui permettra ensuite d'aller plus loin, puisqu'on est sur de la transparence aujourd'hui pour les enseignes de grande distribution sur leur vente de produits durables. ce qui permettra ensuite de construire des politiques publiques adaptées et d'aller plus loin. Donc bon. On a quand même quelques éléments intéressants.
Bon, ben merci. On va en rester à cette, merci beaucoup, cette note encourageante. Charlie Broca, responsable de recherche chargé de la transition environnementale à l'IDRI. C'est encourageant aussi, et c'est même un raid de lumière de ceux que l'on admire sous l'eau, les 185 pays signataires de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ont en effet voté en faveur d'une régulation plus étroite du commerce de plusieurs espèces, plus de mesures pour protéger les requins et les raies, pour être plus précis, 70 espèces des requins-baleines aux raies manta. Emma Voglimaxi.
C'est une très bonne avancée pour Armel Jung, chercheuse en écologie des requins et des raies et militante de l'Association des requins et des hommes.
Il faut voir toutes les mesures en faveur de la meilleure protection et des prises en compte des élasmobranches, donc ce groupe des raies et des requins, comme une bonne nouvelle. C'est des animaux qui sont pour beaucoup dans une situation de conservation assez préoccupante depuis plusieurs années.
La CITES interdit ou complexifie la commercialisation internationale des requins. Seules les espèces dont la pêche est jugée durable pourront être vendues. Une bonne mesure pour la chercheuse, seulement si des moyens sont mis en place pour la faire appliquer.
Ça nécessite également un gros travail de contrôle et de mise en conformité aussi de toutes les institutions, les douanes. C'est compliqué de savoir à quel animal on a affaire en fait. Un morceau de viande, par exemple, un steak de requin, c'est difficile de déterminer à quelle espèce il appartient.
Il manque également des mesures complémentaires pour protéger les espèces les plus menacées.
On arriverait à avoir des choses beaucoup plus fines, en interdisant certaines zones dont on sait qu'elles sont critiques pour leur cycle de vie, par exemple leur reproduction, ou limiter les captures, ou interdire les captures, ou interdire les engins qui sont dommageables pour cette espèce-là, à ce moment-là.
Pour Armel Jung, il est possible d'avoir une pêche durable de requins et de raies. Elle ne milite pas pour une interdiction totale de la pêche. Mais pour cela, elle considère qu'il faudra aller plus loin que la régulation de la CITES.
Quelques mots de la météo de l'après-midi. Les pluies qui se sont étendues de la Bretagne au Hauts-de-France, de l'île de France aux Ardennes, se décalent lentement vers l'est. Ce journal a été préparé avec Axel Dubois et la technique Mineta Diawara. Prochain journal à 18h avec Olivier Vogel.